Comme vous avez dit qu'on allait parler un petit peu moins de politique dans le retour, mais là, c'est une grosse nouvelle. Pour certains, c'est une bombe. Il y en a même qui se demandent là, si le rêve de Jean Charest de devenir un jour premier ministre du Canada, est-ce que ça s'est brisé ce matin avec ce qui est arrivé de la Cour suprême? Je résume un peu. Il y a tout un aspect juridique à ça, mais volontairement, je vais mettre ça de côté un peu. Ce qui nous intéresse, c'est le contenu, là. Hein? C'est ce qu'il y a là-dedans dans les documents qui ont été rendus publics. Alors, tout ça concerne Marc Bibeau. Qui est-il? On le présente souvent comme le grand argentier, autrefois du Parti libéral. C'est un ami de Jean Charest et c'est ce qu'on appelle un collecteur de fonds, ce qui est tout à fait légal. Là. Un collecteur de fonds, c'est correct. Mais Bibeau avait été mentionné dans la commission Charbonneau, on ne l'a pas entendu, on sait qu'il y a une enquête sur lui, et il y a eu des perquisitions de fait. Puis quand tu fais une perquisition, un policier, pour perquisitionner, doit justifier son affaire devant un juge, il doit déposer un certain nombre de preuves. Alors, quand ils ont perquisitionné, dans le cadre de l'enquête sur Marc Bibeau, argentier du Parti libéral, il y a des documents. Donc, qui avait rapport avec ça. Et Marc Bibeau a voulu empêcher que ces documents-là soient rendus publics. Il s'est même rendu, il voulait se rendre en Cour suprême. Ce matin, ils ont décidé de pas l'entendre. Donc, les documents justifiant des perquisitions dans l'enquête sur Bibeau ont été rendus publics. Là, on va torser ça, on prépare là des avocats, tout ça, mais je pense que ce qui vous intéresse, c'est, il y a quoi là-dedans? Qu'est-ce que Marc Bibeau, dans le fond, en quelque sorte, voulait garder secret? Est-ce que c'est compromettant? Est-ce que c'est nouveau? Est-ce que ça peut nuire à Bibeau, à Charest? On jase de tout ça avec notre collègue de Cogeco, Luc Lavoie. Luc, bon après-midi.
Salut, Sylvain.
Alors, est-ce qu'il y a une bombe là-dedans? Tu sais, les Québécois qui nous écoutent depuis la commission Charbonneau, on a entendu parler de plein d'affaires, de corruption, de dons illégaux. Est-ce que là-dedans, à ton œil, à toi, il y a du nouveau, il y a des choses de surprenantes?
Moi, j'ai rien vu de nouveau. Écoute, l'existence de l'enquête Machuré, qui est une chose qui aurait dû demeurer privée, ça fait partie du système de justice. T'sais, en général, là, je sais pas, moi, dans une journée donnée, il doit bien avoir 100 000 enquêtes par plusieurs corps policiers partout au Canada, mais c'est entendu que ça reste confidentiel. Alors, depuis le printemps 2017, quand les fuites ont commencé, on a pas mal tout entendu ce qu'on trouve aujourd'hui dans l'affaire. Et il y a juste un mot, je veux pas faire de la sémantique avec toi, Sylvain, mais il y a juste un mot qui m'accroche un peu dans ce que tu dis en préambule, qui est le policier qui veut obtenir un mandat pour aller faire une perquisition doit fournir des preuves. Non, il n'y a pas à fournir des preuves. Il y a à fournir pourquoi le policier, dans un affidavit, donc sous serment, pourquoi il pense que d'aller là va y amener des preuves.
Des motifs, t'as raison. Voilà. Le mot exact, c'est des motifs. T'as raison.
En justice, c'est important, ces mots-là.
Oui. Honnêtement.
Alors, moi, j'ai rien vu de nouveau. Je constate que le nom de Charest est nulle part dans ça.
C'est vrai.
Si on regarde le cas de est-ce que Charest va aller au leadership ou pas, est-ce que ça va être un, comme on dit en anglais, un showstopper? Je ne pense pas. Je ne pense pas parce que, en fait, s'il y a une chose qui devrait être appréciée par Charest, c'est à ce moment-ci, là, j'ai pas parlé, mais c'est que ça sorte maintenant.
Ouais, au moins. Ouais,
parce que si c'était sorti trois semaines avant le vote, c'est d'autres choses, là.
OK.
Mais là, moi, je vois pas de grande nouveauté dans ça. Et puis, rien de ça n'a été soumis au test de la loi de la preuve.
T'as raison.
Et puis, il n'y a pas d'accusation de portée. Puis,
mais je vais me faire un peu l'avocat du diable. Qui reste
avec
que
plaisir.
Là-dedans, il y a beaucoup de gens de compagnies d'ingénieurs qui disent qu'ils ont financé le Parti libéral. Ça, t'as raison, pas nouveau. Ils disent que le financement, dans le fond, c'était pas les individus, c'était remboursé par la compagnie. Mais ça, on en a déjà parlé, c'est pas nouveau. Mais ces gens-là, de grosses compagnies d'ingénieurs, disent que Bibeau, en quelque sorte, leur aurait promis des contrats en retour d'argent public. En retour de financement, pardon, du Parti libéral. Est-ce que ça, c'est pas nouveau un peu?
Non, pas à ma connaissance. Je pense que ça a été dit même quand l'histoire de l'enquête Machuré est sortie. Et dans ce cas-là, il faut aussi faire attention à une chose. Hein. C'est le je vais appeler ça de même.
Oui.
L'argentier péteux de brou, là, qui arrive et qui dit, garde, fais-moi un bon chèque, tu vois, elle m'a t'aider. Là, quand tu arrives devant un tribunal, faut que tu dises, garde, as-tu un lien entre le paiement que tu as fait là et le contrat qui est là? C'est ça qui est le problème avec ça. C'est pourquoi, d'après moi, ils déposent pas d'accusation.
Mais c'est drôle, Luc, parce que là, je vois mes collègues sourire, parce que c'est exactement ce que je leur ai dit avant l'entrevue en dehors des ondes. J'ai dit, à mon avis, à moi, là, qui a travaillé quelques années au palais de justice, c'est pas une preuve. Le collecteur de fonds, on a juste la preuve que le collecteur de fonds a peut-être dit, hey, finance le Parti libéral, ça va être bon pour toi, tu vas avoir des contrats. Mais si on voulait une vraie preuve, ça prend exemple. exemple, donne un exemple fictif. L'appel du collecteur de fonds à un ministre ou à quelqu'un voilà. qui fait pression, puis la preuve que le contrat a été donné pour ces motifs-là de financement.
Exactement.
Et ça, on l'a pas. On l'a pas encore.
On l'a pas, cette preuve-là. Et quant à l'affaire de savoir si c'était illégal d'utiliser ce qu'on appelle les prête-noms, il y a beaucoup de gens qui ont pas vu passer ça. Mais la loi de René Lévesque, la loi de 1977 qui faisait toute la fierté du Québec,
oui.
hein, elle a été amendée en le 1er mai 2011. Donc, c'était Jean-Marc Fournier qui avait piloté cet amendement-là. C'était un tout petit amendement, mais qui en disait long. Et je te le lis, là, puis les gens vont dire, on joue sur les mots, mais c'est comme ça que ça marche, OK? Alors, la loi disait, toute contribution doit être versée par l'électeur lui-même et à même ses propres biens. Point. C'est ça qu'elle disait, la loi. Alors, il y a beaucoup d'avocats qui ont dit à leurs clients,
ouais.
tu peux rembourser parce qu'il n'y a rien qui concerne la suite, OK? La contribution doit être versée par l'électeur lui-même, je fais un chèque, et en même ses propres biens, ça sort de mon compte de banque. Il y a un remboursement 3 mois plus tard, faire le lien entre les deux, c'est de dire, ben la loi était tout simplement mal écrite et je pense qu'elle n'était pas intentionnelle, ça arrive. La nouvelle loi telle qu'amendée, c'est la même loi, mais ils ont changé un paragraphe, justement parce qu'ils étaient face à cette réalité-là. On disait ça illégal, mais ça ne l'était pas. Toute contribution doit être versée par l'électeur lui-même et à même ses propres biens. Une contribution doit être faite volontairement, sans compensation ni contrepartie, et elle ne peut faire l'objet d'un quelconque remboursement. Donc, depuis le 1er mai 2011, quand cette loi-là a été adoptée, là, c'est illégal. Là, c'est illégal de prendre des prêts, non. Mais ouais. c'est et ultimement, Sylvain, honnêtement, là, j'ai rien à cirer. Je le connais, je l'ai déjà rencontré une fois dans ma vie. J'en ai rien à cirer, ni de lui, ni des autres. Mais c'est le procès, finalement, d'une façon de faire de la politique. La politique s'est faite comme ça jusque, ma foi, il n'y a pas si longtemps. Le patronage à l'époque, je veux dire, moi j'ai commencé comme journaliste à Ottawa en 1976. Je te confie que ça nous rajeunit pas, mais à cette époque-là, là, ça patronnait pas en taponneux, ça patronnait très ouvertement et personne s'en offusquait. Et nous, les journalistes de mon époque, très lointaine. On allait couvrir ça des soirées bénéfices qu'on appelait là au Reine-Élisabeth ou au Palais des Congrès à Québec ou quelque chose, là. Puis tu voyais que tous les ingénieurs puis tous les avocats de la ville de Montréal ou de Québec, dépendant dans quelles des deux places on était, étaient là. On le savait. On savait que les ingénieurs allaient là parce qu'ils se disaient « ça va me donner une ouverture pour des contrats maintenant ». Le financement des partis politiques, ça a toujours été entouré d'une espèce de folklore. Et effectivement, il y a des personnages assez folkloriques qui ont toujours tourné autour de ça.
Ouais. Mais là, on parle de faits. Tantôt, tu parlais de preuves, puis tu parlais de justice. Mais tu sais, comme moi, que la politique, c'est souvent un jeu de perception. Je vais en revenir un peu. Tu disais, Bibeau, c'est pas un joueur important. Mais là, on a Charest qui veut devenir chef des conservateurs.
Non, j'ai pas dit que c'était pas un joueur important,
non,
là,
mais,
Sylvain.
Non,
mais c'est
non,
pas
mais
Charest.
Je veux dire, là, c'est ça. C'est pas Charest. Mais Charest veut devenir chef des conservateurs. La politique, c'est souvent de la perception. Dans les journaux, à matin, j'ai lu à plein d'endroits, on le présente comme Bibeau, le grand ami de Charest. Bibeau, grand ami de Charest. Est-ce que ça peut lui faire mal, pareil, à Charest au niveau de l'image?
Bon, premièrement, c'est pas idéal. Je veux pas jouer à l'autruche, ce n'est pas idéal. Maintenant, tout le battage qu'on a vécu au Québec depuis la commission Charbonneau jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas eu beaucoup d'impact au Canada anglais. Presque pas.
Ah.
Sinon... Ce fameux cover de Maclean Magazine qui disait « The most corrupt province », la province la plus corrompue au Canada, puis on voyait une image du bonhomme carnaval avec une valise de cash, là. Mais Bibeau au Canada anglais, personne ne connaît ça, là.
Ouais,
que Charest soit ami avec Bibeau, ils sont pas au courant de ça, eux autres, là. Et, bon, par ailleurs, Charest est en train de constater, dans la réflexion qu'il mène, et qui est, ma foi, d'après ce que je sais, extrêmement avancée, il est en train de réaliser qu'il va avoir un mur à défoncer pour arriver à gagner. Et ce mur-là, il s'appelle Stephen Harper, puis sa gang. Et ça veut dire que sa gang à Stephen Harper, ceux qui veulent absolument pas que Charest gagne, vont en sortir des saloperies comme ça pendant la campagne. Ça va faire partie, ouais, va faire partie du bagage.
Pourquoi la gang Harper n'aime pas Jean Charest? Parce qu'il considère que c'est pas un pur conservateur. Il est un peu plus libéral rouge que conservateur à la Stephen Harper.
Je dirais qu'il y a deux raisons. La première, c'est une raison qu'il faut connaître l'Ouest pour sentir ça. La première, c'est que le Parti conservateur tel qu'il est, c'est le résultat d'une fusion entre l'Alliance canadienne, qui était en fait le Reform Party, qui avait changé de nom, là,
oui,
et le Parti progressiste conservateur. Et dans la tête des gens qui habitent l'Ouest, en Alberta principalement, mais en Saskatchewan, puis en Colombie-Britannique aussi, c'est la première institution, entre guillemets, nationale, qui a comme son siège social à Calgary, bien que c'est une métaphore, il n'y a pas de siège social comme tel. Mais là, ils se disent, moi, ce parti-là, je l'ai fini par y mettre la main dessus, là, puis finalement, c'est nous autres de l'Ouest qui mènent, puis il n'est pas question qu'on laisse aller ça à l'Est. Ça, c'est une raison qui s'applique autant à Peter McKay qu'à Jean Charest. La deuxième raison, c'est que Harper est un gars extrêmement rancunier, très vengeur, et il en veut profondément à Charest pour deux ou trois affaires, dont une, c'est la fois où, lors de la campagne de 2007, la fois où Charest avait été réélu avec une minorité, il avait réglé le dossier du déséquilibre fiscal. Ottawa a fait un chèque d'un milliard, puis le lendemain, Charest a annoncé qu'il faisait des baisses d'impôts avec ça, puis il s'est fait taper sur la tête au Canada anglais, puis il l'a pas pris. Il pensait que Charest aurait dû avoir au moins la courtoisie de l'informer de ça. Okay. Deuxièmement, il y a Charest et Harper, comme je te disais, qui ont pas d'atomes crochus. Dans les années qui ont suivi, disons la campagne de 2008, là, quand ça s'est mis à mal tourner pour les conservateurs, tu te souviens par exemple des questions de la culture puis tout ça,
ouais,
Charest avait carrément pris position contre Harper, et ça, Harper ne lui a jamais, au grand jamais, pardonné.
Donc il y a de la mémoire, et il y a encore de l'influence au sein des conservateurs.
Ben forcément, il y en a. Ah, ouais. Mais il y a d'autres aspects ici qui peuvent jouer aussi. Tu sais, Harper, on appelle le Parti conservateur tel qu'il est aujourd'hui, c'est le parti de Harper. Bon. Mais en plus, c'est que c'est graduellement en train de devenir le parti de Jason Kenney. Et Jason Kenney, lui, les histoires à Andrew Scheer dans le genre l'avortement, puis toutes ces bébelles-là morales puis religieuses puis tout ça, il est pas là-dedans pantoute.
Okay.
Mais lui a promis à ses électeurs de l'Alberta qui allait régler le problème du transport du pétrole, et que c'était pour ça qu'on devait l'élire. Maintenant, il faut qu'il livre. Puis pour livrer, ça y prend un interlocuteur. Or, Charest, sur la question du transport du pétrole, mmh, il est de ceux qui pensent, comme moi, que c'est pas mal moins dangereux de le transporter par pipeline que de le transporter par train. Pensons au lac Mégantic.
Ben oui,
si ça avait été un pipeline, il n'y aurait pas eu de lac Mégantic. Alors, Kenney est en train de se poser des questions à l'heure actuelle et de se dire, est-ce que ça serait pas dans mon intérêt de recréer ce qui, historiquement, a déjà existé sous Diefenbaker et sous Mulroney, c'est-à-dire une alliance de facto entre l'Alberta et le Québec. Les deux provinces rebelles du pays, mm-hmm, quand elles s'allient ensemble, généralement prennent le pouvoir. Malheureusement, ça arrive pas très souvent. Et les différends qui existent entre le Québec et l'Alberta sont jamais complètement sur le fond, sauf que dans le cas présent, la question du transport du pétrole, littéralement, les Albertains sont en train de venir fous. C'est comme vous les dites, êtes-vous malade? Vous êtes supposé être nos partenaires dans la Fédération. Je peux pas sortir le pétrole d'ici. Êtes-vous fous? Je le vends à 40 % de rabais, ce qui réduit d'autant votre chèque de péréquation. Allez-vous le comprendre un jour?
Ouais. Alors, une lutte intéressante à venir. Luc Lavoie, merci beaucoup de nous avoir parlé.
Je voulais te poser une question, Sylvain.
Ah oui, donc?
As-tu réussi à te reprogrammer et à faire dodo le matin?
Hey, j'ai dit bon matin 8 fois à ma première émission. Et je me réveille encore à 5 heures le matin, mais je me rendors. Mais mes yeux s'ouvrent encore. On me dit que ça allait prendre du temps, fait que je vais m'en donner un
peu. Tu vas voir que c'est agréable.
Merci beaucoup. Salut Luc. 16h20. Êtes-vous d'accord avec ça? Moi, il y en a qui vont dire que c'est du cynisme, hein, mais non. Moi, je suis un de ceux aussi qui... On revient aux révélations là, sur Marc Bibeault. Là. Ce qu'on a devant nous, ce n'est pas de la preuve de corruption. Il y en a, je sais, qui ont vu ça. Ils disent, c'est clair, les gars de compagnie d'ingénieurs ont dit qu'ils ont donné de l'argent à Bibeault, l'argentier des libéraux, pour avoir des contrats. C'est fait, c'est réglé, coupable. C'est pas demain que ça marche. On a juste la preuve que Bibeault a dit ça. Mais il est en train de collecter de l'argent. Il va-tu collecter de l'argent en disant, hey, donne-moi de l'argent, ça donnera rien. Ça se peut-tu qu'il dit, hey, donne-moi de l'argent, les libéraux, ça va t'aider pour les contrats. je vais avoir de l'influence.
Ouais.
Mais là, il faut que tu le prouves. C'est ça qu'on n'a pas.
Tu l'as pas.
C'est qu'on l'a pas pour l'instant. On peut avoir des doutes, on peut douter. Luc nous disait, hey, ça a longtemps fonctionné de même. Là, ce qu'on a, ça peut être de la fanfaronnade. Bibeau devait être un bon vendeur. Ça se peut qu'un bon vendeur, des fois, il en mette un peu. Hey, donne-moi 50 000 pour les libéraux, puis tu vas voir que ça va t'aider pour les contrats.
Mais non, c'est ça.
Oui, mais c'est pas une preuve formelle de corruption.
Tu sais, j'ai l'impression que cette nouvelle-là, ce matin, a pris une très, très grande ampleur parce qu'on attend juste l'annonce de Jean Charest qui se présente à la chefferie du Parti conservateur.
Oui, c'est sûr que c'est un lien. Là.
Mais Luc Lavoie, il a raison. Premièrement, le nom de Jean Charest nulle part là-dedans. Puis deuxièmement, ici au Québec, on la connaît l'histoire. Là, on la connaît depuis très longtemps. Mais dans le Canada anglais, là, Marc Bibeau, là, n'a rien à cirer. Eux autres, s'en foutent de mes rêves.
S'en foutent, puis le nom de Charest n'est pas là.
Fait que dans les faits,
mais l'image un peu, comme ils disent, c'est pas bon.
C'est Hopper. Sûr que c'est pas bon. C'est pas
là,
bon, c'est sûr.
Il nous a bien décortiqué ça. Là. Moi, j'ai pas suivi ça de près autant. Mais là, il y a Hopper qui est là, qui est une genre d'éminence grise pour certains, des purs et durs, de la droite, tout ça. Et là, Hopper aime pas Charest. Donc, est-ce qu'il va se servir de tout ça pour le salir? Puis là, il y a toute une game là-dedans. Là. Ça, c'est ça, c'est juste l'avenir qui va nous le dire, mais il pourrait y avoir un impact.
Ce que ça nous rappelle aussi, c'est que malheureusement, s'il y a jamais d'accusations qui sont portées suite à cette enquête-là, l'enquête de ma jury, on n'aura jamais aucune idée de ce qui était vrai et ce qui était faux. On va toujours avoir des doutes qui nous planent dans la tête, il va toujours y avoir des soupçons, mais on n'aura jamais le mot de l'histoire, le mot de l'histoire.
C'était ma manchette de ce matin, j'ai pas eu le temps d'en parler.
De ce matin?
Dans la manchette du jour, puis suite à ça, à ces révélations-là, ces documents qu'on a grâce à la Cour suprême, bon, je vous répète, là, quand même, je vous nommerai les noms, là, c'est les mêmes qu'on a vus à la Commission Charbonneau, des ingénieurs qui viennent dire qu'ils ont donné aux libéraux, puis apparemment en promesse de contrat. Mais ça s'arrête là. L'autre bout, on l'a pas. Fait qu'on peut crier au complot. Moi, si je suis procureur de la couronne, là, j'accuse personne avec ça.
Mais non, j'ai de la vie.
Je m'excuse, j'en ai pas assez pour accuser. Il manque de quoi? Alors, je voulais faire jouer ça ce matin quand on a parlé des manchettes, là, concernant tout ce qui s'est passé.
Tu ne sauras jamais. Tu ne sauras jamais.
On a fini par le savoir, hein?
Tu ne sauras jamais.
Vous le saurez jamais. Il y a un petit bout que... Mais bon, le reste, on verra bien.